Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'optimisme et l'espoir des autorités en Gironde. La situation concernant l'incendie commence nettement à s'améliorer. Nous serons en direct auprès des pompiers et avec des évacués, plus de la moitié désormais autorisés à rentrer chez eux. Un désarmement complet du Hamas en échange du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Accord annoncé cette nuit par Donald Trump et puis la FIFA n'en démord pas. La Fédération internationale de football continue son projet d'ouverture aux investisseurs privés, malgré les critiques, en particulier celles de l'UEFA.
De l'espoir en Gironde où le feu est toujours contenu par les pompiers ce matin.
La situation est stable selon les dernières informations de la préfecture ce matin. Depuis plusieurs jours maintenant, le feu est stabilisé, ce qui rend le discours des autorités bien plus positif, notamment celui de la préfète de Gironde, Sophie Broca.
C'est la première journée un peu optimiste parce qu'on a l'impression qu'on est en train de revenir sur le chemin d'une vie normale et que les choses commencent à s'améliorer nettement. On reste vigilant, le feu se réduit petit à petit et combattu. Après, il faudra beaucoup arroser, beaucoup gratter pour que ça. On n'ait pas de redépart. On aura forcément des redéparts. On n'est pas au bout, mais on sent qu'on est sur un bon chemin, un chemin positif.
Du travail, il y en a encore, car le feu n'est pas fixé et environ 3300 pompiers continuent de se démener pour en venir à bout. Inès Zegloul, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RMC en Gironde en direct ce matin de Lèche-Cap-Ferret au poste de commandement des pompiers qui reste mobilisé malgré une nuit calme, Inès.
Oui, je viens d'assister au premier briefing de la journée, une sorte de réunion de chassés croisés entre ceux qui sont restés sur le front des flammes toute la nuit et ceux qui grimpent en ce moment même dans leur camion en direction des points chauds, des quelques foyers actifs qui subsistent. On avance bien, c'est ce que me confie ce matin un soldat du feu, rassurant malgré ses yeux cernés par la fatigue, mais prudence, dit-il.
Pour rester vigilant, là, effectivement, la météo et les températures peut-être qui pourraient nous aider, avec une humidité qui pourrait nous aider. Malgré tout, le feu, il n'est pas du tout encore fixé et on reste encore sur nos gardes.
Et tous inspectent ici la topographie du secteur. Ces cartes évolutives marquées de points rouges symbolisant encore les quelques foyers persistants dans les secteurs notamment du Cap Ferret et de la Cano. L'espoir ici, ce sont ces quelques gouttes de pluie tombées du ciel ce matin. Mais ici, on le martèle, la mobilisation reste totale.
Inès Zegloul en direct de Lèche-Cap-Ferret pour RMC et autre preuve de l'amélioration sur place. Un peu plus de la moitié des évacués sont désormais de retour chez eux. 84 000 personnes autorisées à regagner leur domicile à leur tour hier. Les habitants de 9 communes, dont Saint-Jean-d'Illac, très soulagés de retrouver leur maison. Le reportage de Pierre Bourgès.
À peine de retour chez lui, François attrape la cage installée à l'arrière de sa voiture.
T'es chez toi là, allez.
Il libère son chat avec qui il a évacué le week-end dernier.
Ça fait du bien. Là, on n'en pouvait plus. Là. Dès qu'on a vu, on s'est dit on part. On était entre dans la famille, hein, mais quand ce n'est pas des prévus, c'est beaucoup plus long le temps.
Immense soulagement également chez Sophie. Après 5 jours hors de chez elle, et la pression retombe.
Puis là, je repleure parce que c'est la joie de revenir en fait. Là, je vais être contente de faire du ménage pendant une semaine. J'en ai rien à faire. Je vais tout remettre à plat et puis voilà. Et puis on va essayer de reprendre notre petit train-train.
C'était traumatisant, admet celle qui a eu peur de perdre sa maison dans les flammes. À Saint-Jean-d'Illac, la vie tente de reprendre. Elisabeth sort de chez le marchand de journaux. Elle a encore du mal à y croire.
Ça fait du bien de rentrer, mais on sait qu'on est sous la sellette. On sait que ça peut redémarrer à tout moment.
Face à un feu toujours actif, elle a peur d'être à nouveau évacuée.
J'ai dormi dans la voiture avec mon chat. Les hôtels n'acceptaient pas les animaux. C'est horrible. Mentalement, c'est hyper dur.
Dans le coffre de sa voiture, un sac avec des affaires au cas où il faudrait encore évacuer.
Le reportage de notre correspondant dans la région, Pierre Bourgès. Et en plus de ces évacuations, l'autoroute A63 a été rouverte entre Bordeaux et le Pays Basque. Et en ce week-end de chassé-croisé, Bison Futé appelle à éviter de se rendre en Gironde ou de traverser le département. C'est noir dans le sens des départs dans le sud-ouest, rouge partout ailleurs aujourd'hui. Ce sera noir sur toute la France demain. Et puis, bonne nouvelle dans les Landes, le feu est maîtrisé après avoir brûlé 3600 hectares en une semaine. Tous les quartiers de Biscarrosse vont rouvrir à la circulation.
On sera juste après le journal avec le maire de Millau, l'une de ces communes où la vie reprend enfin, où les habitants sont rentrés chez eux. Et puis le 32-16, bien sûr, reste ouvert. Vous le savez, toute la matinée standard, ouvert jusqu'à midi sur RMC pour tous vos témoignages. Il est 7h05 et l'information de la nuit, c'est aussi cet accord trouvé sur le désarmement du Hamas.
C'est Donald Trump qui l'a annoncé. Le mouvement islamiste palestinien l'a confirmé il y a quelques heures. Cet accord s'inscrit dans la deuxième phase du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, qui doit donc retirer ses troupes de la bande de Gaza en échange donc du désarmement du Hamas, Caroline Renaud.
Oui, selon l'accord, seul le Comité national pour l'administration de Gaza pourra détenir, stocker ou contrôler des armes dans l'enclave palestinienne. Toutes celles du Hamas devront donc être remises à cette entité créée par le Conseil de paix de Donald Trump. De son côté, Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Ses forces devraient se retirer du territoire à mesure que le Hamas rendra ses fusils et ses lance-roquettes. Prochaine étape, discuter des modalités de mise en œuvre et convenir d'un calendrier. Étape qui prendra une quinzaine de jours, précise l'équipe de négociation du Hamas. Puis une force internationale de stabilisation se chargera d'encadrer la transition politique. Elle collaborera directement avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza.
Les précisions en direct de Caroline Renaud pour RMC. L'enclave espagnole de Ceuta n'avait pas connu un tel afflux de personnes migrantes depuis 5 ans. Plus de 1500 arrivées illégales ces derniers jours depuis le Maroc. Le président de la région parle d'une urgence humanitaire sociale absolue. 9 personnes sont mortes hier en tentant d'arriver par la nage. Justin Adel, ils étaient encore des milliers hier soir rassemblés près de la frontière.
Ils arrivent par centaines, beaucoup de jeunes hommes, femmes et enfants, en grande partie à la nage, pour contourner la frontière, ces clôtures de plusieurs mètres surmontées de barbelés et délimitant l'enclave espagnole.
J'ai mis 2 heures avec mon petit frère.
Certains utilisent des combinaisons de plongée, des palmes et même de simples bouées de plage pour effectuer cette traversée. Les policiers espagnols sont dépassés.
C'était dur. Les policiers ont essayé de nous arrêter. Mais grâce à notre détermination, nous avons pu passer.
Sur place, les camps d'accueil sont pleins à craquer. Les migrants dorment à même le sol, parfois directement sur les routes. C'est une simple rumeur prétendant l'ouverture d'un poste frontière qui sera à l'origine de cet afflux de personnes en provenance du Maroc. Cet immigré vit déjà sur place.
On leur dit qu'en Espagne, il y a un futur du travail. En vrai, il y en a, mais quand ils arrivent, ils font face à la dure réalité. Ils n'ont rien, ils sont traités comme s'ils n'étaient personne.
D'ores et déjà, les autorités espagnoles et marocaines l'assurent. Les personnes entrées illégalement sur le territoire seront, dès que possible, raccompagnées à la frontière.
Et l'armée espagnole a été déployée sur place. Dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, le casque est désormais obligatoire si vous circulez en trottinette électrique. Le département emboîte le pas à la Seine-et-Marne et à plusieurs villes en France qui prennent cet arrêté face aux accidents qui sont parfois mortels. Casque et équipement réfléchissant obligatoire sous peine d'amende. Mais à Levallois-Perret, le message ne semble pas être passé. Le reportage d'Amine Lafchin.
Dans les ruelles étriquées du centre de Levallois-Perret, au milieu des scooters, des vélos et des voitures, Prégache sur sa trottinette électrique circule sans casque. Mais ce qu'il ignore, c'est que désormais...
C'est 1500 euros d'amende.
Ah oui, quand même, ça fait cher. Je suis sorti à côté, mais au final, en 5 minutes, il peut y avoir beaucoup de choses.
Ça vous est déjà arrivé, vous de...
C'est vraiment quand je suis au niveau des portillons et tout, la peur qu'une voiture arrive brusquement, qu'elle sorte et que je puisse pas la voir ou quoi que ce soit. J'anticipe mal, quoi.
Donc peut-être qu'avec un casque...
Ça serait mieux, ouais.
Des frayeurs et des comportements dangereux que Nathalie, habituée à rouler à vélo, voit régulièrement.
À trottinette, ils se font ce qu'on appelle du surf urbain. C'est-à-dire qu'ils sont une petite vitesse, mais ils ne s'arrêtent jamais.
Les obliger à s'équiper pour elle, c'est donc du bon sens. Mais pour Augustin, au contraire, croiser à vive allure sur sa trottinette électrique.
Je trouve ça inutile et effectivement, je n'achèterais pas le nécessaire. Si les gens voulaient se protéger, ce serait pour leur sécurité. Qui est l'amende, qui n'est pas l'amende. Chacun est libre de sa sécurité, je pense.
La préfecture assure ne pas encore sanctionner. Le temps est à la pédagogie, confie-t-elle. Il faut informer les usagers, mais aussi leur laisser le temps de s'équiper.
Et on parlait il y a quelques instants du monde sur la route ce week-end. Eh bien, il y a aussi une grève SNCF. 67 trains supprimés aujourd'hui et pour aussi d'autres trains dans le week-end en direction de la Normandie.
Ouais, mouvement de grève inopiné annoncé au tout dernier moment sur le pire week-end de chassé croisé de l'été. Ça vous fait réagir, vous composez le 32-16 et on entendait ce reportage sur le casque obligatoire en trottinette. C'est un sujet aussi qui depuis ce matin vous fait beaucoup réagir au 32-16. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut imposer le port du casque? Est-ce que vous-même vous vous le mettez si vous êtes en trottinette. On vous attend au 3216 et sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. La FIFA, à présent, qui persiste et signe malgré les critiques, elle affirme continuer son plan d'ouverture aux investisseurs privés.
Un projet qui n'en finit plus de faire réagir. Projet de vente des parts de la Fédération internationale de football à des investisseurs privés. L'UEFA lance le bras de fer, Pierre Thévenet, et menace de boycotter les compétitions organisées par la FIFA.
Oui, si l'initiative du patron du football mondial va au bout, les pays membres de l'UEFA ne participeront pas aux compétitions organisées par la FIFA. Annonce faite dans un communiqué hier, ces pays dont la France rejette sans équivoque cette proposition de privatisation des grandes compétitions de football mondial. Un projet qui doit rapporter gros à la FIFA. Gianni Infantino, son président, cherche donc l'adhésion des fédérations. Il ne la trouvera pas du côté de l'Europe qui refuse ce modèle. La Coupe du Monde appartient au football, il en sera toujours ainsi, peut-on lire dans la déclaration. Et tant que l'Europe aura voix, elle ne sera jamais à vendre. L'UEFA ne sera pas seule dans ce combat. La CONCACAF, qui regroupe les fédérations de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a également rejeté en bloc la proposition.
Les précisions de Pierre Thévenet.
C'était le journal de Clara Gabi et sur RMC, il est 7h11 et on va retourner en Gironde. On est en ligne avec le maire de la commune de Millos. Bonjour Cédric Pain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. La commune de Millos, qui est l'une de ces communes où la vie reprend enfin, puisque vos administrés ont pu regagner leur domicile hier. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ce grand soulagement aussi, j'imagine.
Oui, ben ça faisait quelques jours. On en parlait avec Madame la préfète. On est très content qu'elle ait pu lever voilà cette mesure. Donc les Millosiers sont revenus petit à petit dans la journée, et puis. C'était un moment important, et puis je vous cache pas aussi que un soulagement, et depuis plusieurs jours, je crois que c'est la première fois où j'ai pu dormir, donc
vous avez fait votre première nuit, en tout cas à peu près nuit de sommeil, et merci d'avoir mis le réveil pour nous ce matin. Pas de pagaille particulière, pas d'afflux sur les routes au moment où l'annonce a été faite.
Non. Les gens sont revenus progressivement, vraiment dans une, comme toujours, avec beaucoup de respect sur les consignes, etc. Ce qui était important, c'est qu'on aille chercher les personnes qui étaient encore dans les gymnases, dans les communes voisines. Donc on a affecté des bus pour pouvoir aller les chercher. Et puis après, des personnes qui sont, eux, sans vraiment avec mobilité réduite, en fauteuil ou autre, ou là, effectivement, ou très loin, des mesures très spécifiques qu'on a travaillé avec l'ARS pour aller rechercher tout le monde, que tout le monde, quelque part, rentre à la maison et soit bien accueilli.
Racontez-nous, du coup, ça veut dire que ce matin, la vie reprend sur votre commune, les commerces vont pouvoir rouvrir, les entreprises.
Exactement, j'étais en lien avec toutes les entreprises, tous les commerces. Et c'est vrai que c'était attendu, donc le centre commercial ouvre à 8h30, tout le monde est prêt. On a longuement échangé, longuement préparé aujourd'hui. La mairie a même rouvert, même si la zone est fermée. Mais vraiment au public, elle a rouvert hier à 13h30. Non, c'est important, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est accompagner les personnes qui ont vécu, soit les enfants. Ça peut être vécu comme un traumatisme ou des personnes qui étaient isolées. Et elles ont vécu en groupe pendant quelques temps, et là, on va devoir les accompagner pour que ce retour se fasse le mieux possible. Donc il y a vraiment un accompagnement à mettre en place maintenant.
Quelles consignes vous avez passées aux habitants? Il faut malgré tout rester prudent et sur le qui-vive. Hein, l'incendie n'est pas complètement terminé.
Oui. D'abord, avoir une pensée pour nos sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre en général, et puis garder le téléphone à côté, on ne sait jamais. Vous savez, c'est parti de pas grand-chose et ça a pris des proportions énormes. Donc l'incendie n'est pas éteint, donc ça peut très bien repartir. On a énormément de pompiers mobilisés, mais néanmoins, voilà, ça peut partir de rien du tout. Et puis on peut toujours aussi, excuse-moi de le dire comme ça, mais avoir un fou qui vient de mettre le feu à un autre endroit.
Ça veut dire qu'il faut garder un sac prêt au cas où il faudrait réévacuer, ce qui serait évidemment un scénario terrible, mais malgré tout, il faut quand même se tenir prêt au cas où.
Oui. Mais après, c'est vrai que tout le monde est connecté, il y a les réseaux sociaux qui permettent d'informer pour nous régulièrement. Tout le monde est, on le voit, hein, avec les statistiques, tout le monde suit ça de près, tout le monde est très fortement sensibilisé, mobilisé sur cette question-là. Vous savez, c'est notre patrimoine, hein. C'est qui part en fumée. C'est on le vit très très mal, quoi. Donc tout le monde suit ça de très près.
Merci beaucoup Cédric Pin d'avoir été en ligne avec nous en direct ce matin. Maire de la commune de Mios en Gironde, où la vie donc reprend ce matin, les commerces rouvrent et les habitants ont pu passer leur première nuit chez eux, la première depuis le week-end dernier. Merci beaucoup et standard ouvert, hein, je vous le redis, jusqu'à midi sur RMC. On attend tous vos témoignages. Si justement vous avez pu rentrer chez vous, venez nous raconter. Il est 7h15 sur RMC. On va s'intéresser à notre facture d'électricité dans un instant, puisque notre facture va augmenter demain, 1er août, oui, au cœur de l'été, une augmentation un peu cachée au cœur de l'été, plus 2,5%. Ça va représenter une vingtaine d'euros en moyenne sur la facture. Le coup de gueule et le parti pris dans un instant du président de l'association de consommateurs CLCV. Tout ça est incohérent, dit-il, parce qu'on nous pousse à l'électrification et en même temps on nous augmente les prix. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h18 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Notre facture d'électricité va augmenter au cœur de l'été. 1er août, c'est demain, augmentation décidée par le gouvernement, plus 2,5% en moyenne. Bonjour Thierry Sagnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le vice-président de la CLCV, l'association de défense des consommateurs. 20 millions de foyers sont concernés. C'est tous ceux qui sont encore au tarif réglementé, c'est-à-dire en gros chez EDF. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que cette décision, elle n'a aucune cohérence puisqu'on nous pousse justement à l'électrification.
Oui, il y a effectivement un problème de cohérence. Le gouvernement a annoncé ces derniers temps vouloir des prix stables et incitatifs pour que le consommateur privilégie l'électricité, notamment à un moment où, vous savez, le gouvernement incite le consommateur à sortir du gaz. Donc là, il y a un problème de cohérence. Il y a un deuxième problème de cohérence, d'ailleurs, c'est que, en fait, on pousse le consommateur à des efforts de sobriété, ce qu'il fait, d'ailleurs, il fait des efforts, mais ces efforts sont effacés par une augmentation des coûts fixes. C'est-à-dire que là, par exemple, on a eu un hiver qui a été plutôt doux, donc il y a eu une baisse de la consommation en général, et cette baisse de la consommation, elle est compensée par une augmentation des coûts fixes pour que les réseaux Enedis et RTE ne perdent pas d'argent.
En fait, alors, on consomme moins, mais on paye pareil.
C'est ça, c'est quelque part, c'est un peu ça. Donc on nous demande d'être sobre, on l'est, mais quelque part, la facture, elle baisse pas, puisqu'il faut quand même payer les coûts fixes. Alors ça pose un deuxième problème, c'est celui de la transparence. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, nous, on conteste pas forcément pour contester. Ce qu'on demande, c'est de la transparence. On a une augmentation du coût des réseaux, hein, pour faire simple, c'est tout le monde connaît un peu Enedis RTE, c'est ce qui permet les raccordements. C'est pas une augmentation de l'électricité, c'est pas une augmentation de la particule, c'est une augmentation des réseaux. Et donc aujourd'hui, on voudrait avoir plus de transparence sur les coûts, parce que ces réseaux, le coût de ces réseaux, c'est surtout pour le raccordement du nouveau producteur. Alors, on n'est pas forcément contre les énergies non renouvelables, etc., mais on souhaiterait savoir quand même quels sont les coûts réels de ces raccordements et qui paye quoi. Est-ce que c'est aux consommateurs de tout payer? C'est une question.
Oui, parce que en réalité, on nous répète sans cesse que désormais on produit l'électricité la moins chère d'Europe grâce à nos réacteurs nucléaires. Alors, mais en fait, les coûts des réseaux augmentent.
Alors, c'est encore autre chose. C'est-à-dire le coût des réseaux augmente, et vous avez raison de pointer le fait qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité, vous avez pointé la commission de régulation de l'énergie qui calcule le prix de l'électricité. En fait, le prix de l'électricité en France aujourd'hui n'est pas le prix du coût de production de l'électricité en France, qui est plus bas avec le nucléaire, ce que vous venez de dire, mais c'est un prix de marché régulé au niveau européen. Donc, en fait, c'est vrai qu'à la CLCV, on pointe le fait que le prix de l'électricité, le consommateur français ne bénéficie pas des coûts bas de production d'électricité.
Et ça, pour vous, c'est un problème, ça reste un problème. C'est d'ailleurs un sujet qui est souvent dans le débat politique. Pour vous, c'est un problème.
C'est un sujet. Quand vous avez un coût de production bas en France lié au nucléaire, ce qui est un avantage pour notre pays, et qu'on dit aux consommateurs, vous ne pouvez pas en bénéficier, parce que vous comprenez, au niveau européen, il y a un coût de marché régulé, il est quand même normal que le consommateur, qu'on mette la question sur la table. Après, on peut discuter, mais la question est légitime, vous en convenez.
Ça va donc coûter à peu près 26 euros, c'est la moyenne qui a été calculée par la commission de régulation de l'énergie, 26 euros par an pour un consommateur moyen sur sa facture. Cette augmentation décidée au 1er août. Vous, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Vous avez dit transparence. Est-ce qu'il faut aussi aller, pour inciter à passer à l'électrique sur son mode de chauffage, sur sa voiture par exemple, est-ce qu'il faut aller vers une baisse de la fiscalité sur l'électricité?
Alors, en tout cas, il faut simplifier. Aujourd'hui, la facture électrique est incompréhensible. Vous avez des réseaux, vous avez des taxes, vous avez la consommation d'électricité. Il faut de la simplicité, il faut de la transparence. S'il n'y a pas la transparence et la simplicité, il n'y a pas l'acceptabilité de l'augmentation des prix. On ne comprend pas pourquoi ça augmente. Et en même temps, vous avez ce discours qui est de dire il faut électrifier le pays, il faut que le consommateur utilise l'électricité, qu'il sorte du gaz, etc. Donc, d'une part, il faut de la stabilité, de la cohérence, de la transparence. Quand on aura déjà ces trois choses, après, effectivement, je pense qu'on aura avancé et que s'il doit y avoir des augmentations, et je dis bien si elles sont justifiées, elles pourront être acceptées. Mais sans cohérence, sans transparence et sans simplicité, c'est quand même compliqué.
Et, sans après, que, et avec un peu de cohérence sur les discours aussi, parce que je ressortais ce que les ministres nous avaient promis, vous le disiez, des factures stables au moins en 2026 et 2027, ça c'était la fin de l'année dernière, hein, ministère de l'économie, voire Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui évoquait une trajectoire de baisse durable. Bon, bah, résultat, plus oui, 2,5% oui, oui. En plein mois d'août. Non,
Vous avez raison, il faut une cohérence. On ne peut pas dire aux gens, il faut sortir de l'électricité, il faut sortir du gaz. C'est ça le discours aujourd'hui, il faut aller vers l'électricité. Avoir un ministre qui vous dit, on va avoir une cohérence des prix stables sur la durée, voire qui vont baisser, et tout d'un coup avoir une augmentation qu'on ne comprend pas, qui n'est pas transparente, etc.
Merci c'est beaucoup, on a bien entendu votre parti pris. Ce matin, merci beaucoup Monsieur Sagnès d'avoir été avec nous, Thierry Sagnès, le vice-président de la CLCV, l'association de consommateurs, avec nous en direct ce matin. Merci beaucoup, 7h24, l'économie dans un instant par l'assurance vie, Manuel Chypre.
Assurance vie, mon amour.
Voilà. Ah oui,
jamais, jamais, jamais les Français n'ont placé autant d'argent sur leur assurance vie.
Alors, on va voir si ça rapporte. À tout de suite sur RMC, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 sur RMC, RMC Story, le chiffre du jour avec Manu Le Chypre, 36,5 milliards d'euros, c'est le montant déposé par les Français sur leurs assurances-vie au premier semestre.
Eh oui, les épargnants français ont plébiscité l'assurance-vie sur les 6 premiers mois de l'année, 36 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Au total, les contrats d'assurance-vie représentent désormais un encours de plus de 2150 milliards d'euros. C'est le tiers de notre épargne financière aujourd'hui qui est placée sur l'assurance vie. C'est de loin le placement numéro un dans le pays. Pour vous donner un ordre d'idée, le livret A et le livret d'épargne populaire, on est plutôt autour de 600-650 milliards. Alors il faut rappeler qu'il y a deux types, il y a deux grandes familles d'assurance vie. Il y a ce qu'on appelle les fonds en euros, sans risque. Votre capital est garanti et évidemment ça rapporte moins que les fonds en unité de compte. Là, le capital n'est pas garanti, vous investissez dans des actions et des obligations, vous êtes dépendant de l'évolution des marchés financiers, c'est un peu plus risqué, ça rapporte plus, et ce sont ces placements un peu plus risqués que les Français ont plébiscité, puisque ça représente les trois quarts de la collecte de l'assurance-vie au premier semestre.
Comment on explique cet engouement ?
Alors d'abord, chez les Français, hein, très clairement, l'humeur est à l'épargne plutôt qu'à la consommation. 70% des ménages disent mettre de l'argent de côté régulièrement pour un montant mensuel moyen d'environ 200 à 250 euros. Ça, c'est ce que nous dit l'INSEE. Mais dans cette ambiance plutôt fourmi que cigale, les Français arbitrent et très clairement le match assurance-vie livret A a tourné à la faveur de l'assurance-vie cette année à cause notamment de la baisse du rendement du livret A hein, qui était tombé à 1,5% en février et qui ne sera relevé à 1,7% qu'au 1er août. Alors, en plus, une fois déduits les frais de gestion, l'assurance vie devrait rapporter plus cette année, 2,6 à 2,9% par rapport au livret A, même si on doit ensuite déduire la fiscalité à laquelle est soumise l'assurance vie et pas le livret A. Mais très clairement, l'assurance
vie. On fait le bon calcul, si on y va.
C'est le bon calcul pour rapporter plus cette année.
Le bon calcul et la déclaration d'amour à l'assurance vie de Manu Le Chypre ce matin. À tout à l'heure, Manu, on se retrouve après le journal de 8 heures. Dans un instant, la météo complète de Charlène Villemer et un nouveau journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal tout de suite avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. RMC au cœur du port, Jean Gironde qui tente de se relever après le passage des flammes. Le maire fait face à une commune sinistrée près d'une habitation sur 5 brûlée. Le gouvernement déclare la guerre aux pyromanes. 275 interpellations depuis le début de l'été et des profils très variés. Et la colère des voyageurs après une nouvelle grève des agents de la SNCF sur la ligne Paris-Normandie.
L'incendie en Gironde, toujours stabilisé ce matin, mais il a laissé derrière lui un paysage dévasté aux Porges.
Un peu plus d'une semaine après l'évacuation de 3500 habitants, certains habitants ont pu rentrer chez eux, mais le retour à la normale est encore loin. Près de 20% des maisons ont été ravagées par les flammes. Justement, notre envoyé spécial RMC Marion Gauthier s'est rendu à la salle des fêtes où le maire, entouré d'élus et habitants, se relaie pour apporter de l'aide aux sinistrés.
Ok, d'accord.
Commencez avec un café et le téléphone à l'oreille.
À tout à l'heure.
Vous êtes levé depuis quelle heure ?
Depuis 5 heures.
Ses lunettes sur le bout du nez, son gilet bleu clair floqué mer, Martial Zaninetti enchaîne les points météo et les cellules de crise.
La difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons de la fumée avec de l'intoxication au monoxyde de carbone, ce qui peut être très grave.
Un tour dans la salle des fêtes transformée en centre d'accueil et de logistique.
Bonjour.
Bonjour. C'est l'adjointe à la culture. Maintenant, elle est adjointe à l'alimentation.
Ça fait une semaine que je suis là, parce que je ne peux pas aller chez moi.
Vous dormez où, du coup ?
Chez moi, en partie.
Des fois sur des matelas, voilà.
Il y en a qui ont tout perdu, et pour eux, je tiens bon.
Un énième appel, puis une autre adjointe passe, les yeux humides.
J'ai une séance de psy à 10h, après la réunion, à 10h30. J'y retourne parce que je craque, C'est trop dur.
Ça me peine et ça rajoute de la douleur, mais je ne dois pas m'écrouler.
Des gestes de soutien, poignée de main aux pompiers.
Sans vous, j'y arriverai pas.
Le feu, loin d'être éteint, est déjà dans les esprits. La prochaine épreuve, le retour des habitants dans leurs allées noircies et leurs maisons calcinées.
Une nouvelle nuit à calme en Gironde. Un météo favorable, incendie stabilisé depuis 4 jours. Les pompiers toujours mobilisés. 84 000 personnes ont regagné hier leur domicile, notamment Myriam, habitante de Sainte-Hélène.
Un vrai soulagement. Franchement, voilà, on attendait ça depuis un moment. C'est vrai que ça a été une période extrêmement difficile, très anxiogène. Et là, le fait de pouvoir réintégrer nos habitations, c'est, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On va pouvoir retrouver nos familles et, voilà, voir les copains, les amis, pouvoir profiter. C'est un vrai, vrai ouf de soulagement.
Un soulagement également dans les Landes. Hein. L'incendie de Biscarrosse est maîtrisé. Les quartiers évacués vont pouvoir rouvrir. La circulation va également être rétablie. Et feu maîtrisé également en Haute-Corse. 160 hectares brûlés.
Et le gouvernement traque les pyromanes.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, lance un appel à la grande fermeté et rappelle que 70% des incendies sont criminels. 275 personnes ont été interpellées depuis le début de la saison en France. 31 une placée en détention provisoire. Et Pierre Bazin, ce qui est marquant, c'est que toutes les personnes qui ont été déférées présentent des profils très différents.
Oui, depuis le début de l'été, les enquêteurs sont confrontés en garde à vue à des profils variés. Des hommes de tous âges, d'abord 21, 27, 49 ans, des adolescents aussi. À Bordeaux, il y a quelques jours, c'est un jeune homme de 15 ans qui était déféré pour un feu de broussailles. Au même moment, au même endroit, un juge ordonnait le placement en détention provisoire d'un brancardier. Ces dernières semaines, tous les milieux sociaux sont représentés chez les incendiaires présumés. À Fontainebleau, un étudiant en droit engagé en politique dans les Pyrénées-Orientales de SDF. Depuis juin, la justice a vu défiler un pompier pyromane, un homme placé sous curatelle, un incendiaire récidiviste ou des suspects bien connus des autorités. Ce que nous confie une source judiciaire habituée à ce genre de dossier, c'est qu'en matière de pyromanie, les auditions des suspects réservent toujours des surprises, qu'il s'agisse du profil des mises en cause ou de leur justification.
La piste criminelle se précise concernant l'incendie près de Dijon. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Plusieurs départs de feu ont été constatés. Cet incendie qui a parcouru 150 hectares n'est pas fixé.
Ouais, des incendies volontaires extrêmement nombreux. On reviendra sur le profil de ces pyromanes. Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Comment on peut expliquer ce genre de passage à l'acte ? On y reviendra après le journal de 8h et ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16. Je vous rappelle cette opération encore aujourd'hui de standard ouvert sur RMC jusqu'à midi. Vous témoignez sur les suites de ces incendies. 7h34.
Et le gouvernement gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova pour 6 mois, quelques jours après que la journaliste de CNews a été la cible d'un arrêté d'expulsion. Une étape monumentale. Voilà comment qualifie Donald Trump l'accord pour le désarmement du Hamas. Le président américain affirme qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé. Des responsables du mouvement palestinien compte sur les médiateurs pour obliger Israël à respecter les termes de l'accord.
On en parlait tout à l'heure, notre facture d'électricité et la promesse de stabilité du gouvernement passe à la trappe.
20 millions de Français vont payer plus cher dès demain l'électricité. 26 euros de plus par an. Pourtant, Vincent Chevalier, le gouvernement avait promis aucune augmentation.
Oui, fin 2025, le ministre de l'Industrie prédisait une stabilité des factures pendant 2 ans. Quelques mois plus tard, l'annonce est déjà caduque. Une hausse de 2,5% proposée par la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie, est censée financer l'entretien et le développement du réseau de distribution. Le gouvernement avait pourtant la main sur cette variable, d'après Thierry Brosse, professeur spécialiste des questions énergétiques.
On peut dire qu'on veut une rémunération beaucoup plus basse du transporteur. On sait tous que dans un monopole, vous avez toujours du gras. Ni vous ni moi ne sommes en capacité de dire le coût du réseau est trop cher. Par contre, la CRE devrait le faire. Or, elle ne le fait jamais. La CRE prend les demandes des transporteurs de gaz et d'électricité et les envoie aux factures des Français. Donc là, il y a quand même un problème de méthodologie.
Une hausse estimée à 26 euros par an pour un ménage de 4 personnes.
Et parmi les autres nouveautés du 1er août, le taux du livret A passe à 1,7% contre 1,5% actuellement.
Un sujet qui va vous faire réagir au 32-16, j'en suis sûr, à 7h36 sur RMC. Cette grève inopinée à la SNCF est au pire moment.
Alors que des milliers de voyageurs prennent la route des vacances, les agents de la SNCF lancent aujourd'hui un mouvement de grève. Objectif dénoncer leurs conditions de travail lors des épisodes de canicule. Conséquence, le trafic est perturbé entre Paris et la Normandie. Et Sarah Bélien s'est rendue en gare Saint-Lazare. Elle a recueilli le ras-le-bol des vacanciers et travailleurs.
Olivier, directeur d'école, était censé partir de Deauville en direction de Montpellier cet après-midi, mais mauvaise surprise hier en ouvrant sa boîte mail.
Et au dernier moment, on reçoit juste un mail pour nous dire suite à un mouvement social, local et inopiné, votre train est annulé.
Sans solution, il se rendra à Paris en covoiturage ou en louant une voiture pour ne pas rater sa correspondance. Être prévenu aussi tard le rend furieux.
Ils doivent se dire que de toute façon, c'est que des touristes, donc ils auront 1 ou 2 jours de vacances en moins, mais pas de chance, c'est des gens qui bossent. Tout le monde se fout de notre gueule, il n'y a pas d'autre mot.
Colère dirigée vers la SNCF. CF et Sudrail à l'origine du mouvement. En ce week-end de forte affluence, le syndicat veut dénoncer les conditions de travail pendant les périodes de canicule. Julien Trocaz, secrétaire fédéral de Sudrail.
La direction de l'entreprise, depuis le 13 juillet, elle a été alertée dans le cadre du droit de grève. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation importante, qui plus est dans cette période de juillet-août par les cheminots et les cheminotes, c'est que le ras-le-bol est très important et il va falloir qu'ils se remettent autour de la table.
Les usagers impactés peuvent d'ores et déjà échanger leurs billets gratuitement. Ceux dont les trains sont annulés seront remboursés.
Et on y reviendra avec tout à l'heure l'un des représentants syndicaux qui viendra nous expliquer les raisons de cette grève.
Et du monde sur les routes pour le premier grand chassé-croisé de l'été sera rouge aujourd'hui dans le sens des départs sur une grande partie du pays, noir sur le quart sud-ouest et demain noir sur toute la France. Et la FIFA campe sur ses positions, pas question de renoncer à son plan d'ouverture aux investisseurs privés malgré les critiques. L'UEFA menace de boycotter les compétitions organisées par l'instance mondiale du foot.
Le Quintet, c'est à Cabourg aujourd'hui à 20h15.
Le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori, le 3, Joker d'Amaro, son outsider, le 14, Iggy Pop d'Airfray.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 7h38. Dans un instant, la faune décimée en Gironde. Combien d'animaux sauvages ont péri dans la forêt? C'est l'autre bilan terrible des incendies. Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de protection des oiseaux est avec nous dans un instant. Il soutient notamment une pétition pour interdire la chasse à l'avenir dans les zones touchées par les feux, le temps au moins que la biodiversité puisse se restaurer. Ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h43, merci de nous rejoindre sur RMC et sur RMC Story. Combien de temps faudra-t-il pour que la nature reprenne ses droits dans les cendres de l'incendie? Bonjour Alain Bougrain-Dubourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. 42 000 hectares de forêt partis en fumée et plus de 100 000 même à travers la France. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact aujourd'hui de ces feux sur la faune et quelles sont les espèces qui ont le plus souffert?
Alors, la réponse est non. Il faudra du temps avant d'évaluer l'impact sur la biodiversité. Je parle des espèces vivantes, mais on sait déjà que c'est par millions que les animaux ont été affectés. Alors, Ceux qui s'en tirent, si j'ose dire, le mieux, c'est probablement les grands animaux, les cervidés, les sangliers, les chevreuils et les oiseaux, même si tous ces animaux qui ont fui les flammes ont rejoint des territoires qu'ils ne connaissaient pas, ont été complètement désaxés, ont été victimes de prédations pour les oiseaux, par exemple. Mais bon, on peut dire que ceux-là s'en tirent à peu près avec beaucoup de brûlures, hein. On récupère déjà des chevreuils, etc. Alors, les plus touchés, c'est ceux qui ne peuvent pas fuir l'incendie, sont les batraciens, les reptiles, les hérissons, les blaireaux, les renards qui vont se mettre dans les terriers, qui sont également victimes d'intoxication. Tous ces animaux, il y a un phénomène assez troublant, enfin bouleversant, j'ai envie de dire, c'est que quand les flammes sont passées et qu'ils ont miraculeusement résisté, ils vont tenter de sortir de leur terrier, par exemple, et puis là, ils vont se brûler les pattes à nouveau, parce que
Parce que les sols sont encore chauds, et il y a encore des reprises en plus de feuilles et des fumées. J'imagine qu'il faudra beaucoup de temps pour que la nature reprenne progressivement ses droits, d'où cette pétition qui recueille beaucoup de signatures, 300 000 signatures, pas de chasseurs sur les cendres, 300 000 signatures pour interdire la chasse dans les zones touchées par l'incendie pendant les prochaines années. C'est une pétition que vous soutenez, ça paraît l'évidence pour vous ?
Oui, je la soutiens bien évidemment, parce que après les multiples canicules, après la violence du feu, on va pas ajouter le plomb à la mortalité. Faut avoir un peu de décence. Il faut laisser la nature en paix, se reconstituer. Alors je sais, on va me dire, mais les chevreuils survivants ou les sangliers, ils vont manger les jeunes pousses de la végétation qui va à nouveau sortir de terre. Oui, il y a tout ça, mais c'est l'équilibre naturel, et je crois que franchement il faut un peu de décence.
Restez avec nous, Alain Bougrain-Dubourg, parce que ce sujet fait forcément réagir nos auditeurs. Il y a Florent qui est avec nous au 32-16. Bonjour Florent.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur dans l'Orne, c'est ça ? Qu'est-ce que vous pensez de cette pétition ? Je ne sais pas si vous êtes vous-même parfois chasseur.
Non, je ne suis pas chasseur. C'est une pétition qui est plutôt bonne, mais par contre, je la trouve incomplète et sur le fond, dommage, parce que oui, bien sûr qu'il ne faut pas aller les chasser, mais qu'est-ce qu'on fait sur... Et ce que je ne comprends pas, c'est la vitesse à laquelle les 300 000 signatures arrivent, et que par contre, on n'entend aucune levée de bouclier pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça rebrûle l'an prochain, parce que si ça rebrûle l'an prochain, on peut ne pas les chasser, ils vont remourir. Et il y a là où est-ce que Emmanuel Macron a été en visite, le maire a très bien parlé. Maintenant, il va falloir agir et rapidement. Il va falloir reprendre les écobuages à certaines saisons pour pouvoir limiter les incendies, peut-être avoir des bassines comme l'a publié le journal Le Point, peut-être pour et l'agriculture, mais aussi peut-être pour pouvoir répondre rapidement à des incendies avec des eaux, faire du débroussaillage beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut pas à une certaine hauteur et tout ça, mais sauf que c'est ultra inflammable. Il va falloir surtout agir. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont ralenti au niveau administratif sur agir sur ces points-là. Mais là, c'est très bien, on peut ne pas les chasser. Si ça rebrûle l'an prochain parce qu'il n'y a rien de fait, parce qu'on ne fait rien,
ça suffira pas.
On aura de nouveau le même massacre.
On a très bien compris votre message, merci beaucoup Florent. Et Alain Bougrain-Dubourg va pouvoir réagir, parce qu'il y a justement, on entend beaucoup ça, c'est vrai qu'il y a aussi les normes environnementales qui parfois empêchent de faire des tranchées, d'abattre des arbres ou de faire du débroussaillement ou du débroussaillage. Alain Bougrain-Dubourg, est-ce qu'on se met trop de freins parfois au détriment de mesures qui pourraient empêcher des incendies?
Alors d'abord, je ne voudrais pas laisser dire que on se préoccupe pas de repenser l'avenir. C'est pas parce que on s'attarde sur une situation qui est la chasse que pour autant on n'est pas attentif à ces allumettes géantes qu'on a plantées sur des milliers d'hectares. On sait qu'il faut développer la mosaïque de paysages, on sait qu'il faut restaurer les zones humides qui étaient très présentes dans les Landes, par exemple. Donc tout ça, on s'en occupe. Ne disons pas que c'est parce qu'il y a une situation quelque part qu'on reste indifférent.
Non, mais ce que pointe Florent, c'est les freins parfois des normes environnementales sur des mesures qui pourraient empêcher les incendies, type débroussaillement.
Oui, il y a une obligation légale de débroussaillement qui est propre à certaines régions de France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, PACA et d'autres. Ça, c'est un peu plus de 50 départements par an, et qui oblige à débroussailler dès lors qu'on est à 200 mètres d'une forêt, une habitation, sur une profondeur d'un minima 50 mètres. La LPO a toujours été d'accord avec cette idée.
Sauf qu'on ne peut pas le faire à certaines périodes, et notamment au printemps.
Non, on peut le faire à toutes les périodes de l'année. La LPO recommande, dans les autres départements, de limiter l'élagage pendant la période de reproduction, c'est-à-dire mi-mars globalement jusqu'à mi-juillet. Mais jamais elle s'est opposée à des mesures élémentaires de sécurité. Les gens qui laissent croire ça, permettez-moi de vous dire qu'ils sont indécent lorsqu'il suggère que ce serait
donc,
les associations.
Rien n'empêche de débroussailler, quelle que soit la période de l'année, c'est ce que vous nous redites ce matin. Merci Alain Bougrain-Dubord d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je remercie également Florent qui a réagi au 32-16 et le débat continue, ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16 standard ouvert encore aujourd'hui jusqu'à midi sur RMC. Il est 7h50. Dans un instant, le portrait du jour avec Victor Pourchet.
De l'or et du jaune, les couleurs préférées de notre cycliste préféré, Pauline Ferrand-Prévot, prête pour son deuxième Tour de France.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51. Le bonus RMC, le bonus de Charlène Villemer. Aujourd'hui, le nouvel album d'Ariana Grande.
Pétale, voici l'extrait qui a donné le nom à son album. Extrait qui sort donc officiellement aujourd'hui. Mais certains chanceux ont pu l'écouter en avant-première lors des concerts, notamment à Montréal cette semaine. La chanteuse a posté la vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo que vous pouvez entendre le son en radio. Le premier single, Hate That I May You Love Me, pardon, est sorti fin mai, classé 3e du top Spotify Monde et 1er du Billboard Hot 100 de juin aux États-Unis. À 33 ans, Ariana Grande sort donc son 8e album et depuis ses 15 ans, elle n'a pas chômé. Broadway, tournée mondiale, égérie même de marques cosmétiques et même actrice. Vous l'avez peut-être vu dans la comédie musicale Wicked. Et elle sera de retour au cinéma avant Noël dans une comédie.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h52 et vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure du portrait du jour avec Victor Pourchet. Ce matin, l'une des plus grandes championnes françaises, la cycliste Pauline Ferrand-Prévot, qui s'attaque demain à son deuxième Tour de France.
Ouais, et le premier, l'an dernier, sur RMC, c'était conclu comme ça.
C'est la reine, elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France femme. Le maillot jaune sur les épaules, deux victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France. Fabuleux, extraordinaire.
Les larmes de la rémoise de 34 ans, pourtant habituée au titre, toutes disciplines confondues, plus d'une quinzaine mondiaux, et cette victoire de légende en 2024.
Pauline Ferrand-Prévot est la maîtresse des anneaux ici, et les pleurs de Pauline Ferrand-Prévot qui a accompli quelque chose d'immense aujourd'hui, absolument immense, Pauline Ferrand-Prévot championne olympique.
Et accomplissement après deux échecs olympiques, prophétie de cette gamine d'une famille de cyclistes qui voulait faire comme sa maman, de cet enfant, compétitrice qui voulait bouffer le monde, raconte son frère aîné qu'elle engueulait quand il l'a doublé sur la route. De cette préado aussi qui battait au championnat de France des lycéens presque majeurs.
Une surdouée et une sacrée personnalité.
Et sur le vélo, c'est sa mère, un sacré caractère. En dehors, c'est plutôt son père, cool. Ça, c'est ce que dit son compagnon, belle-maman appréciera. Pauline Ferrand-Prévot, c'est le soleil. Lumineux comme le sourire qu'elle affiche si souvent, brûlant comme les entraînements interminables qu'elle s'inflige, insaisissable aussi quand ce n'est pas la saison. Je me sens mieux quand je suis seule, avoue celle qui n'a même pas regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour rester dans sa bulle, dit-elle. Ça fait 3 mois qu'on ne l'a pas vue sur les routes. Rendez-vous donc demain sur le Tour de France.
Le Tour de France féminin qui commence donc demain. Merci Victor Pourchet pour le portrait du jour. Allez, on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
dans vos villes.
Et on continue notre Tour de France. On accompagne tout l'été les maires qui ont été élus ou réélus au mois de mars dernier. Ce matin, on vous emmène en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Le maire Jean-Marc Béran vient d'être élu et il s'apprête à vivre sa toute première saison à la tête de la toute première station balnéaire de la côte atlantique. Et vous allez l'entendre, les défis sont nombreux dans une ville dont la population est multipliée par 10 l'été. Reportage RMC de Martin Lange.
Sur la jetée face à la mer, difficile de trouver des locaux.
Bonjour, vous arrivez d'où ?
De 95, région parisienne.
De Sèvres, de Niort.
On arrive de Bretagne.
De Bormes-les-Mimosas dans le Var, plus de 1000 km.
From Germany.
Dortmund. Des touristes venus des quatre coins de la France et de l'Europe et même parfois des Outre-mer. Oh,
vous arrivez d'où comme ça ?
On arrive de la Martinique.
Et alors, verdict ?
Très calme, adorable, les gens adorables. Donc on va en venir.
Comme chaque été, ils sont des milliers à affluer une fois les beaux jours venus. Jean-Marc Béran, le maire de Saint-Jean-de-Mont.
L'hiver, c'est 10 500 habitants. L'été, c'est x10, entre 80 et 130 000 habitants.
Élu pour la première fois en mars dernier, l'édile vit à 69 ans sa toute première saison à la tête de la ville.
7 jours sur 7, H24 aussi. Effectivement, quelquefois, on est dérangé la nuit. Des sorties de matinales, de boîtes de nuit. C'est pas de tourpeau, mais c'est des problèmes du quotidien qu'il faut résoudre au fur et à mesure.
Comme la gestion des près de 300 commerçants de proximité.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, et vous ?
Alors, comment se passe la saison ?
Et de leur doléance.
Mais ça va, c'était possible d'allonger la terrasse d'un petit mètre pour que je puisse accueillir plus de clients l'été. C'est vrai que c'est pas évident.
Certainement que vu la place qu'il y a, ça doit être possible. Je m'en occupe, puis dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer quelqu'un.
Autre problème soulevé par Émilie, la restauratrice, le manque de logements pour les saisonniers qu'elle emploie.
On a fait faire une étude où il manque environ certainement 200 logements pour les saisonniers.
La mairie a déjà lancé la construction d'une résidence d'une quarantaine de places pour l'été prochain, mais administrer une station balnéaire, c'est aussi gérer des situations de crise comme un incendie qui se déclare dans un camping début juillet.
C'est le seul stress que l'on peut avoir. Après, si on ne voulait pas avoir de stress, il fallait pas se présenter aux élections.
D'ailleurs, pour assurer la sécurité de la quarantaine de campings ainsi que des 8 km de plage, la ville s'appuie sur de nombreux renforts, parmi eux 28 sauveteurs comme Lenny.
Salut Lenny. Tu vas bien ?
Ça va. Très bien.
Ça s'est bien passé ce matin ?
Ouais, super.
Et la température de l'eau, elle est combien ?
Ce matin, on l'a prise à 18,5 et là, elle est un peu plus, elle est à 20 degrés.
François Pouvreau est responsable du domaine public et maritime à la mairie de Saint-Jean-de-Mont. C'est lui qui coordonne l'arrivée de ces recrues.
Tout est démultiplié, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau des bruits de voisinage. Toute la partie services techniques, tous les services de la ville, sont environ 125 personnes qui viennent renforcer. On a au niveau de la police municipale une dizaine de renforts. La gendarmerie, c'est 25 renforts. Les pompiers, c'est une quinzaine de renforts.
Quand est-ce que on peut se dire c'est une saison réussie ?
On commence à décompresser, on dit c'est une bonne saison lorsqu'on arrive à fin août.
Et donc pas de vacances cet été, ni pour les employés, ni pour le maire.
On ne se prend pas de vacances cet été, on est obligé d'être présent avec plus de 100 000 personnes sur les côtes. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc je ne vois pas déléguer ça tous les jours à mes adjoints.
Les congés attendront donc le printemps pour l'édile qui prévoit un voyage aux États-Unis.
Et reportage de Martin Lange en Vendée pour RMC, RMC dans vos villes. On continue notre Tour de France. Demain, dans un instant, la météo avec attention des orages et puis le journal de 8h avec de bonnes nouvelles ce matin pour la Gironde. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci de démarrer votre journée avec RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La Gironde commence un peu à souffler. L'incendie est toujours stabilisé ce matin, ce qui rend les autorités optimistes. Nous serons en direct de Lesches-Cap-Ferret auprès des pompiers. Un afflux de migrants jamais vu depuis 5 ans dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière avec le Maroc. Plus de 1500 personnes arrivées illégalement ces derniers jours. Et puis Zinedine Zidane va-t-il faire cracher le site de la billetterie des matchs des Bleus ? Les fans sont déjà prêts à prendre leurs billets pour les rencontres de début octobre au Stade de France.
En Gironde, les autorités commencent très prudemment à entrevoir le bout du tunnel.
La situation est stable ce matin. Le feu est contenu dans son périmètre selon les dernières précisions de la préfecture. Les autorités hier affichaient pour la première fois depuis un peu plus d'une semaine leur optimisme. La moitié des habitants évacués sont désormais de retour chez eux avec toujours de la prudence hein, puisque le feu est encore actif. Au Porge, un groupe d'habitants organise des rondes jour et nuit pour surveiller des zones où le feu pourrait reprendre, Célestin Bougère.
À 30 mètres de sa maison, Thierry a déployé un simple tuyau.
Un tuyau d'arrosage, un petit tuyau.
De la fumée s'échappe encore du sol au contact de l'eau. Le bois tout autour est noir, complètement calciné. Un masque sur le visage, Thierry tente d'éteindre les points chauds encore nombreux.
Les pompiers sont passés, mais je refroidis encore parce que ça continue. Hein. Le combat avec cette terre-là, c'est sans fin parce que le feu est dessous, en fait. On le voit pas, là. Et il peut très bien se rallumer un peu plus loin.
Avec une quinzaine de personnes, il se relaie pour surveiller le secteur, même la nuit.
On tourne et on se relève toutes les 1h30. On commence à 11h le soir et jusqu'à 8h le matin.
À ses côtés, Maxime, lui, ne vit pas au Porge, mais il a posé des congés pour aider des amis qui habitent ici.
On appelle les pompiers quand il y a un gros départ qu'on n'arrive pas à gérer. Quand ils sont pas là, on fait des pare-feux pour protéger les habitations et les lotissements.
Cette fois-là, les pompiers aident le groupe à noyer la zone. Les amis s'accordent une petite pause à la salle des fêtes du village. Sur le chemin, Maxime craque en voyant sa région méconnaissable.
On la verra pas comme on l'a connue, quoi. Ça nous prend au trip, quoi. On peut pas le cacher. Je pense que vous demandez à tous les gens qui sont là, ils vous diront la même chose.
Le groupe de bénévoles s'attend à lutter pendant des semaines, voire des mois, avant d'éteindre complètement ce feu.
Célestin Bougère avec Marion Gauthier pour RMC. Des bénévoles pour épauler les 3300 pompiers toujours mobilisés sur place. Inès Zegloul, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RMC en Gironde en direct de Lèche-Cap-Ferret ce matin au poste de commandement des pompiers. Inès, la nuit a été calme, mais ils sont donc toujours sur le qui-vive, hein.
Et sur le parking, c'est le chassé-croisé encore ce matin entre ceux qui partent sur le front des flammes et ceux qui vont enfin pouvoir profiter d'un peu de repos, d'une tasse de café bien chaud, toujours engourdi après une nouvelle nuit sur le terrain. Certains toquent même à la porte de l'infirmerie de Fortune qui est installée ici à la hâte, hein, dans le gymnase, à la recherche de soins médicaux ou d'un kiné par exemple. Je viens d'y croiser le lieutenant-colonel Casson qui s'apprête lui à grimper dans l'un de ses camions rouges. Il est médecin-pompier, c'est lui qui va au plus près des flammes pour prendre en charge ses collègues.
Le risque principal est la toxicité des fumées d'incendie avec des particules en suspension dans l'air et une qualité de l'air très altérée, encore plus bien évidemment au contact rapproché du feu. Nous sommes aussi très vigilants par rapport au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On a peur pour nos copains, pour nos collègues.
Alors, il recueille les dernières informations auprès des sapeurs de la nuit. Les relèves de la journée, elles, filent donc notamment en direction du Cap Ferret, en direction de Lacanau. Ce sont les deux foyers actifs qui inquiètent ici les soldats du feu aujourd'hui. Nuit calme, donc, vous l'avez dit, mais prudence, me glisse l'un d'entre eux.
Inès Zegloul en direct de Lèche-Cap-Ferret pour RMC. Et bonne nouvelle également dans les Landes où l'incendie est maîtrisé. Tous les quartiers de Biscarrosse vont rouvrir à la circulation, annonce le préfet. Le feu a brûlé en une semaine 3600 hectares.
Et ce mois de juillet entre dans l'histoire. 3 des 15 plus gros incendies de ces 10 dernières années en Europe ont eu lieu ce mois-ci.
Favorisé par le dérèglement climatique, estiment des scientifiques du World Weather dans leur dernière analyse ce matin. Charlène Ville, les conditions climatiques en Europe sont plus favorables aux incendies.
À cause notamment du changement climatique d'origine humaine. Aujourd'hui en France, on a 2 fois plus de chances d'être touché par des incendies extrêmes et 6 fois plus en Espagne. Un incendie d'une telle intensité pourrait se produire tous les 20 ans dans l'Hexagone et tous les 6 ans dans la péninsule ibérique. C'est ce qui ressort de cette étude scientifique internationale. En cause, des hivers très pluvieux avec une végétation croissante et puis des étés très secs et très chauds. Résultat, les sols et la végétation sont donc asséchés, des combustibles plus facilement disponibles. Ce qui se passe actuellement en ce seul mois de juillet, 3 des 15 plus gros incendies en Europe en l'espace de 10 ans ont eu lieu. Figure au classement des pays les plus touchés, l'Espagne et puis maintenant la France avec les incendies en Gironde. 42 000 hectares ont brûlé. C'est la deuxième plus grande superficie dévastée dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dégâts matériels, des villes évacuées, puis des risques aussi pour la santé, notamment à cause des fumées et des particules fines.
Les précisions de Charlène Villemer. Merci Charlène. En raison des incendies en cours, Bison Futé appelle les automobilistes à éviter de se rendre dans le département ou de le traverser en Gironde pour laisser les routes libres pour les secours. C'est noir dans le sens des départs aujourd'hui dans le sud-ouest, rouge partout ailleurs et toute la France sera en noir demain pour ce week-end de chassé-croisé. La Fondation Vinci Autoroute dénonce ce matin des comportements alarmants. Après ce sondage Ipsos qu'elle publie, près d'un fumeur sur 5 admet jeter son mégot par la fenêtre en voiture, alors qu'une immense majorité de Français se disent conscients du risque que cela comporte pour les incendies. Constance Bostoen, comportement dangereux encore très répandu.
sur l'aire d'autoroute de Saint-Arnoult, au sud de Paris. Une mère de famille écrase sa cigarette sur le trottoir sous les yeux de Mélick et Thierry, garés quelques mètres plus loin.
Je trouve que les gens sont un peu mal éduqués comme ça. Enfin, ça se fait pas, quoi. Ça flambe un peu partout à cause des mégots et tout.
C'est dur d'inculquer ça aux gens. C'est une question, je pense, d'éducation de base.
Selon une étude de Vinci Autoroute, 17% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture. C'était le cas de Thierry il y a encore quelques années.
Mais probablement arrivé de jeter des mégots. On parle de ça il y a 30 ans, donc forcément la sensibilisation, elle était bien moindre qu'aujourd'hui, on en parlait beaucoup moins.
Malgré la prévention sur les risques d'incendie et malgré l'impact écologique catastrophique des mégots de cigarettes, Frédéric Patrouilleur pour Vinci Autoroute depuis 3 ans n'a constaté aucune évolution des comportements.
Là on est au bord d'une forêt, si vous regardez le bord du trottoir, il y a des mégots partout. Là on va avoir tout nettoyé et le lendemain il y a tout à refaire. C'est sans fin.
Jeter son mégot par terre est aujourd'hui puni par une amende de 135 euros. Évidemment, si ce geste est à l'origine d'un incendie, la sanction monte jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Un fumeur sur 5 qui jette encore son mégot par la fenêtre de la voiture. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous choque à l'heure où on vit ces méga feux? 3216 et le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et en plus du monde, sur la route ce week-end, une grève SNCF, grève surprise des conducteurs et des contrôleurs. 67 trains supprimés aujourd'hui en direction de la Normandie.
Et là aussi, hein, si ça vous fait réagir, vous composez le 3216. Je passerai un coup de fil juste après le journal à l'un des représentants syndicaux qui appellent à cette grève.
Et cela faisait depuis 5 ans que la ville de Ceuta n'avait pas connu ça. Plus de 1500 arrivées illégales de personnes migrantes ces derniers jours depuis le Maroc, dont cette enclave est frontalière. 9 personnes sont mortes hier en tentant d'arriver par le Maroc à la nage. Le président de la région parle d'une urgence humanitaire sociale absolue. Romain Cluzel, service politique d'RMC, ces arrivées très nombreuses depuis quelques jours font beaucoup réagir à droite et à l'extrême droite.
C'est le cas par exemple du président du RN, Jordan Bardella. Il s'alarme de cette arrivée illégale d'immigrants sur le sol européen et il réclame au gouvernement de renforcer en urgence les contrôles à la frontière avec l'Espagne. Une demande faite également par 2 élus de la droite LR, l'ancien Premier ministre Michel Barnier et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, va beaucoup plus loin et évoque une invasion. Il est rejoint par d'autres responsables d'extrême droite en Europe, notamment en Espagne, en Allemagne et en Italie. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, dit même envisager la fermeture de l'espace Schengen entre son pays et l'Espagne. Une déclaration qui vire à la crise diplomatique. C'est de la démagogie, répond le gouvernement espagnol, qui convoque l'ambassadeur italien.
Romain Cluzel, la France gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova après l'avoir visée par un arrêté d'expulsion. Cette chroniqueuse employée par les groupes Canal+ et Lagardère est accusée par le gouvernement de relayer la propagande du Kremlin. Une étape monumentale des mots de Donald Trump, l'accord pour le désarmement du Hamas. Le président américain affirme qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé. Des responsables du mouvement palestinien comptent sur les médiateurs pour obliger Israël à respecter les termes de cet accord.
Plus que quelques heures avant l'ouverture de la billetterie pour les prochains matchs des Bleus au Stade de France.
Et surtout les premiers dans ce stade mythique de Zinedine Zidane comme sélectionneur des Bleus. Ce sera début octobre. Les places sont mises en vente cet après-midi. Et Léo Piedaniel, les supporters sont déjà prêts.
Thibaut est un fervent supporter de l'équipe de France de football. La première de Zidane en France, il veut la vivre. Et pour ça, tous les moyens sont bons.
Je mets surtout en place d'abord le réseau avec mes amis. On est 2 ou 3 pour essayer d'avoir des places. Je vais essayer de me connecter, on va dire, 30 minutes avant.
Le match auquel il aimerait assister, c'est celui contre l'Italie, tout comme Geoffrey.
Le lieu à être le 2 octobre, c'est au Stade de France. C'est le match à ne pas louper. On pourra en parler pendant des heures de cette confrontation France-Italie avec en plus Zidane.
Lui a déjà obtenu son sésame depuis la semaine dernière, car il est membre des Bleus et Fier, club de supporters affilié à la FFF. Son président, Jean-Baptiste Montarnier, a pu partager le lien de la billetterie en avance et a constaté un engouement inédit pour l'équipe de France parmi sa centaine d'adhérents.
J'avais une cinquantaine de places allouées par la FFF qui sont parties très très vite. J'ai eu à peu près x3, x4 par rapport aux demandes classiques et je pense qu'il restera pas beaucoup de billets pour le grand public.
Et si vous voulez quand même tenter votre chance, sachez que la billetterie en ligne ouvre à 14h.
Et puis on apprend ce matin la mort à 66 ans d'une légende du foot italien, Franco Baresi, qui est mort, c'est ce qu'annonce le Milan AC, dont il a été l'emblématique capitaine.
Clara Gabillet pour le journal sur RMC, il est 8h10 et on est en ligne avec Jérémy Tabary. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CGT Paris-Ouest Rive-Droite et vous allez suivre l'appel lancé par vos collègues de Sudrail, mouvement de grève inopiné sur le réseau normand de la SNCF, les TER nomades. Vous assumez cette grève sur le plus grand week-end de chassé croisé de l'été et annoncé au dernier moment pour les vacanciers ?
Alors premièrement, je tiens à rappeler que c'est inopiné. Nous avons eu de nombreuses réunions avec la direction pour éviter d'en arriver à ce conflit. J'en veux pour preuve, nous avons eu des réunions le 16 juillet ainsi que le 6 juillet sur les différentes revendications des cheminots.
Mais c'est le moment qui interroge quand même. Vous choisissez le moment où les trains sont pleins, où les gens ont besoin de voyager.
Ah bah le moment interroge, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il faut savoir aussi que le feu gronde, en tout cas chez les conducteurs, depuis le début de l'année. Et effectivement, là, avec les épisodes de canicule que nous avons eu, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau du mécontentement chez les cheminots, et la direction emporte l'entière responsabilité concernant les revendications sur lesquelles...
Qu'est-ce que vous demandez très précisément ?
Nous demandons simplement déjà que les conducteurs, quand ils arrivent dans des foyers pour se reposer après une journée de service, puissent disposer par exemple de foyers avec de la climatisation ou de la ventilation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous avons certains foyers où des conducteurs doivent se reposer et qui ne disposent pas de climatisation. Donc nous demandons que la climatisation soit mise dans le cahier des charges par rapport à ça. Nous demandons aussi des effectifs. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous avons perdu environ 10% des effectifs au niveau de la conduite des trains. Ça empêche la direction de mettre en place des journées allégées.
Donc 67 trains supprimés rien qu'aujourd'hui, c'est les destinations de Paris vers Cherbourg, Rouen, Deauville, Trouville, Le Havre, ça va continuer jusqu'à dimanche, des trains qui étaient sans doute pleins. Vous n'auriez vraiment pas pu le faire à un autre moment ?
Bah, en fait, tout simplement, il faut savoir que ce sont les cheminots qui ont décidé et qui ont mis en avant leurs arguments le week-end.
En gros, il faut pénaliser au maximum les vacanciers, quoi. C'est ça votre logique.
Ce n'est pas que pour pénaliser les vacanciers. Par exemple, dans les revendications que nous avons montées, il y a aussi les conditions de transport au niveau des climatisations.
Non, mais là, la grève, vous allez pénaliser, vous cherchez la date qui pénalise le plus.
Ah, ce n'est pas nous qui avons décidé cette date. C'est à un moment ou à un autre, c'est arrivé. Nous avons déposé des demandes de concertation en adéquation aux revendications à l'instant T. Maintenant, effectivement, ça tombe ce week-end-là. Ça aurait pu très bien tomber le week-end, on va dire, dans deux semaines. C'est un concours de circonstances, mais en aucun cas...
Ou en semaine, au moment où les gens, peut-être, voyagent moins en vacances. Merci, en tout cas, Jérémy Tabary. On a entendu vos messages à la direction de la SNCF et aux vacanciers qui seront très impactés. Donc, 67 trains supprimés rien qu'aujourd'hui, et ça dure jusqu'à dimanche. Jérémy Tabary, secrétaire général de la CGT Paris. Merci à vous. Dans un instant, autre sujet. Qui sont les pyromanes ? Le ministre de l'Intérieur annonce 275 interpellations depuis le début de l'été pour des départs de feu, et dans 70% des cas, ce sont des actes criminels. Alors quels sont leurs profils ? Pourquoi mettre le feu ? Et puis est-ce que la justice est suffisamment sévère ? On se pose beaucoup de questions, on va essayer de comprendre avec notre invité qui est psychologue, qui est également sapeur-pompier et présidente de l'Association européenne des psychologues sapeurs-pompiers. Elle est avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h17 et vous êtes bien sur RMC. RMC Story, l'été est loin d'être fini, on le sait, sur le front des incendies. Et on le sait, dans 9 cas sur 10, les départs de feu sont d'origine humaine. Il y a les négligences, les incivilités, mais il y a aussi beaucoup d'actes criminels. Bonjour Sabrina Gineau.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes psychologue et sapeur-pompier. D'ailleurs, vous présidez l'Association européenne des psychologues sapeurs-pompiers. On va essayer de comprendre avec vous qui sont ces pyromanes. D'abord, quand on dit pyromane, on parle de quoi ? On parle d'une pathologie psychiatrique, comme pyromane, comme toxicomane par exemple ?
Tout à fait. Quand on parle de pyromanie, pour faire simple, c'est comme si on confondait en fait la kleptomanie avec un acte de vol. Donc en effet, la pyromanie, c'est un trouble psychiatrique qu'il faut différencier en fait de l'acte criminel.
Donc, ça veut dire que ceux qui mettent le feu, qui sont des pyromanes, sont malades. Ils le font quoi ? Par plaisir ? Par addiction ? Par fascination ?
Ils le font parce qu'il y a un trouble du contrôle des impulsions, parce qu'il y a une forme de tension, d'excitation en effet à l'idée de passer à l'acte, une montée en fait pulsionnelle, et puis un plaisir avec un soulagement quand l'acte est mené. Il faut donc le différencier tout à fait des comportements incendiaires où il peut y avoir un motif externe.
Oui, c'est pas juste mettre le feu pour se venger, par exemple. C'est vraiment là on parle d'une pathologie. Alors le ministre de l'Intérieur a annoncé 275 interpellations depuis le début de l'été pour des départs de feu, et dans 70%, ce sont des actes criminels. Ça paraît colossal. Qu'est-ce qu'on sait de leur profil ? On voit que parmi les arrêtés, il y a à la fois des SDF, un ado de 15 ans, un brancardier, aussi un étudiant en droit. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a tous les profils, tous les milieux ?
Il y a tous les profils, tous les milieux, puisque en effet il y a une confusion générale entre pyromanie et comportement incendiaire. Si l'on part en effet des motifs externes, comme les motifs externes sont aussi fréquents que de nombre de personnes, nous trouverons dans la population des profils très différents. Quant à la pyromanie, c'est autre chose. On peut avoir des traits communs. Il s'agit en tout cas d'un diagnostic qu'un psychiatre peut poser après avoir écarté d'autres troubles de santé mentale, tels des personnalités antisociales ou des troubles des conduites de manière générale.
Mais alors, quelle est la part de ces pyromanes qui sont malades et la part des incendiaires qui ont juste à un moment envie de mettre le feu ?
Alors, les pyromanes correspondent à une population très faible, au final, parmi tous les comportements incendiaires. Et je comprends bien que il y a dans les médias ce besoin de raccourcir en parlant de pyromanie, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme si pour chaque acte de vol, on parlait de kleptomanie.
Donc ces personnes qui ont été arrêtées, tous ne sont pas des personnes que vous qualifiez de pyromanes, on l'a bien compris. Alors il y a aussi beaucoup de mineurs. Qu'est-ce qui enclenche ce mécanisme ? Qu'est-ce qui va pousser à mettre le feu ?
Chez les mineurs, plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses, puisqu'on parle d'hypothèses plutôt en sciences humaines. Les troubles des conduites, pourquoi pas. L'immaturité, le jeu, ce qu'on appelle aussi la crise ordalique, le fait de friser les limites.
Le côté vu à la télé.
Il peut y avoir aussi cette explication, tout à fait. Encore une fois, ça va être en tout cas des explications plutôt individuelles que collectives.
Et puis alors, je voulais qu'on s'arrête aussi sur le cas des pompiers, parce qu'on parle parfois de pompiers pyromanes, et c'est pas qu'un mythe, ça existe. On a vu que d'ailleurs un pompier a été arrêté après l'incendie de Fontainebleau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pompier pour en arriver à mettre le feu ?
Alors pour celui en effet qui a été arrêté à Fontainebleau, pour ce jeune homme, je suis pas sûre qu'il y ait encore eu un diagnostic psychiatrique si je ne m'abuse. Donc en effet il a commis un acte délictueux. Il va être pris en charge là-dessus, certainement vu par un psychiatre. Qu'est-ce qui peut le pousser ? Alors plein de raisons certainement qui lui appartiennent. On entend un peu de tout. Je ne le connais pas ce jeune homme, donc.
Mais de façon générale, quand on parle de pompiers pyromanes et de pompiers incendiaires, qu'est-ce qui fait qu'un pompier qui connaît les conséquences, pour le coup, d'un incendie mettre à mettre le feu ?
Soit il a un trouble psychiatrique et, en effet, il ne se rend pas compte des dangers causés pour la population et pour ses collègues. Il peut y avoir aussi des enjeux purement personnels. Il peut y avoir cette notion de fascination. Et là, en tout cas, on est réellement dans la pyromanie où c'est le plaisir d'allumer. Il peut y avoir aussi des raisons purement narcissiques de se sentir utile et puis d'apparaître comme un héros.
Éteindre son, finalement, de passer pour le héros qui vient ensuite éteindre l'incendie. Juste une dernière question. Les sanctions, aujourd'hui, elles ont été renforcées. Est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives ? Est-ce que ça compte ?
Alors, est-ce que ça compte ? Il faudra du temps pour savoir si ça compte réellement. S'il s'agit en tout cas de pyromanie, il faut d'abord penser à la santé mentale. On sait à quel point il manque de moyens au niveau des psychiatres, donc il faut peut-être renforcer le système de santé mentale pour pouvoir se prémunir ou en tout cas accompagner quand l'acte est commis. On peut pas en tout cas condamner les gens avant qu'ils soient passés à l'acte, donc il faut malheureusement qu'il y ait une condamnation pour faire une obligation de soins. Ça c'est le premier point.
Condamner, oui, la sanction, la peine de prison ne suffit pas, il faut aussi des soins psychiatriques. 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende, c'est la peine en cas d'incendie volontaire. Elle peut être alourdie quand il y a des victimes, et notamment quand il y a des morts. Et vous dites il faut aussi évidemment des soins. Merci beaucoup d'avoir témoigné, de nous avoir éclairé un petit peu ce matin, Sabrina Ginot, sur le profil de ces incendiaires et de ces pyromanes. On a bien compris la distinction. Sabrina Ginot, psychologue et sapeur-pompier. Il est 8h23 sur RMC. Tout de suite, l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel, le Chypre et le Crédit Mutuel qui ne financera pas de candidat à l'élection présidentielle.
Oui, alors Matignon et des représentants des principales banques françaises avaient évoqué mi-juillet un accord dans lequel l'État pourrait couvrir une partie du risque de non-remboursement des crédits contractés par les partis pour les campagnes électorales. Mais il n'empêche, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui regroupe l'essentiel des caisses régionales du Crédit Mutuel et le réseau CIC estime que les garanties apportées par l'État ne sont pas aujourd'hui suffisante pour financer des campagnes électorales. Alors, c'est pas tellement le fameux seuil des 5% qui pose problème aux banques, hein. Ce seuil en dessous duquel les frais de campagne ne sont pas remboursés. Non, ce qui préoccupe surtout nos banquiers, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le vrai risque non assurable. Et c'est quoi? Bah, c'est l'invalidation des comptes de campagne qui peut toucher même les candidats de premier plan, puisque s'il y a invalidation des comptes de campagne, il n'y a plus la contribution de l'État. Et on pense évidemment à ce qui était arrivé à Nicolas Sarkozy en 2012.
Est-ce que ça va donc devenir de plus en plus compliqué de financer les campagnes électorales pour les partis politiques ?
Oui, c'est probable, parce que les banques vont être de plus en plus réticentes. Il y a les contraintes prudentielles qui encadrent les risques que peuvent prendre les banques. Et ces contraintes sont de plus en plus strictes. Il y a le risque réputationnel, lui aussi, qui est de plus en plus grand. Vous savez que déjà, les banques qui financent, par exemple, des activités trop tournées vers les hydrocarbures, paf, bah, elles se font sanctionner par des boycotts, etc. Donc là, ils pourraient, en fonction des candidats qu'elles financent, subir aussi des boycotts. Ces campagnes, elles coûtent de plus en plus cher et les partis sont moins solides financièrement qu'ils ne l'étaient avant. Alors, c'est un danger pour la démocratie parce que la frilosité des banques favorisera les partis ou les candidats les plus riches, encouragera les financements les plus obscurs ou venus de l'étranger. Le risque n'est pas que les banques choisissent les candidats, le risque c'est qu'elles cessent totalement de vouloir financer la démocratie. Et si la collectivité considère que le pluralisme est un bien public, il est logique que l'État en garantisse une partie du coût et du risque. Un peu mieux qu'il ne le fait aujourd'hui.
D'où cette idée de banque de la démocratie qui avait été dans le débat pour que tous les partis puissent se financer, mais qui n'a jamais vu le jour. Un mot des chiffres des carburants, comme tous les matins.
Alors, stable, les carburants. Hein, le gazole toujours à 2,21 € le litre, le sans-plomb 95 à 2,02 €. Et puis, on constate une légère détente sur les prix du pétrole et du gaz. Le pétrole est redescendu à 84 $ le baril. Hein, il y a une dizaine de jours, on était à 100. Et le gaz, là aussi, 57 € le mégawattheure, ça baisse un peu.
On surveille bien sûr tous ces prix au quotidien. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip, 8h26. Tout de suite, on vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche.
Hier, Arnaud, c'était le bac philo.
Alors, les sujets, vous avez vu les sujets? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Bah oui. C'est même mieux. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il y a aussi la technique peut-elle être mauvaise? Alors, j'ai quelques ex qui m'ont reproché ça, mais je trouve que c'était très exagéré. Mais c'est compliqué, la philo. Aujourd'hui, en plus, les gamins, ils sont beaucoup sur TikTok. J'ai des parents d'amis qui sont désespérés. C'est pas là qu'on apprend la philo, quoi. T'as pas Jérém Star qui reçoit des philosophes dans son bain. Salut les chouchous. Alors, aujourd'hui, le sujet du bac. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Et c'est vrai, moi, ça m'arrive de paroler, mais parce que je suis pipelette et tout, je parole, je suis Dalida. Et pour en parler, je suis avec Bernard-Henri Vély, qui est dans mon bain. Bonjour BHV. Non, BHL. Pardon. En tout cas, j'adore votre chemise, hein. Elle est toute blanche et tout. Ça te voit que vous êtes marié avec une lessive. C'est Ariel. Alors, vous êtes philosopheur. Fist, non, ça ira. Donc, philosophiste, donc, et votre préféré, c'est.
Ah non, pas fist.
C'est le grand-père de N'Golo Kanté, c'est Emmanuel Kanté. Non, Kant. Et mon philosophe préféré, c'est Nietzsche. Vous n'avez pas lu mes livres? Non, je ne les ai pas lus, mais comme tout le monde en fait. Là, pour le coup, je suis au niveau des autres. Alors, Nietzsche, j'ai révisé. C'est celui qui a écrit « Ainsi parlait Zaya tout ça ». Et il explique comment elle parlait Zaya, tout ça, comment elle a appelé Sori Berry, tout ça. C'est là qu'on voit que la parole, c'est important. Vous voyez, il y a encore un peu de taf quoi, en philo.
Arnaud Demanche à retrouver quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La situation s'améliore sur le front de l'incendie en Gironde. Le feu est stabilisé depuis 4 jours. 84 000 habitants ont pu retrouver hier leur domicile. RMC est allé à leur rencontre hier à Saint-Jean-d'Illac. Donald Trump annonce un accord historique sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Étape monumentale, selon lui, dans la deuxième phase du plan de paix. Et pas question pour la FIFA de faire marche arrière. L'instance mondiale du foot confirme son projet d'ouverture aux investisseurs privés. L'UEFA, elle, entame un bras de fer.
Et ce matin, l'accalmie se confirme en Gironde.
La nuit a été calme, météo favorable, incendie toujours stabilisé. 84 000 habitants ont pu regagner leur domicile hier. C'est le cas, Pierre Bourgès, des habitants que vous avez rencontrés à Saint-Jean-d'Illac.
À peine de retour chez lui, François attrape la cage installée à l'arrière de sa voiture.
T'es chez toi, là. Allez.
Il libère son chat avec qui il a évacué le week-end dernier.
Ça fait bien. Là, on n'en pouvait plus. Là, dès qu'on a vu, on s'est dit on part. On était entre dans la famille, hein, mais quand c'est pas des prévus, c'est beaucoup plus long le temps.
Immense soulagement également chez Sophie. Après 5 jours hors de chez elle, et la pression retombe.
Puis là, je repleure parce que c'est la joie de revenir en fait. Là, je vais être contente de faire du ménage pendant une semaine. J'en ai rien à faire. Je vais tout remettre à plat et puis voilà. Et puis on va. On va essayer de reprendre notre petit train-train.
C'était traumatisant, admet celle qui a eu peur de perdre sa maison dans les flammes. À Saint-Jean-d'Illac, la vie tente de reprendre. Elisabeth sort de chez le marchand de journaux. Elle a encore du mal à y croire.
Ça fait du bien de rentrer, mais on sait qu'on est sous la sellette. On sait que ça peut redémarrer à tout moment. Quoi.
Face à un feu toujours actif, elle a peur d'être à nouveau évacuée.
J'ai dormi dans la voiture avec mon chat. Les hôtels n'acceptaient pas les animaux. C'est horrible. Mentalement, c'est hyper dur. Quoi.
Dans le coffre de sa voiture, un sac avec des affaires au cas où il faudrait encore évacuer.
Et on continue de faire vivre la solidarité sur RMC. Standard ouvert jusqu'à midi encore ce matin. Il y a notamment les professionnels du tourisme qui espèrent reprendre leur activité au plus vite et qui craignent de s'effondrer en cette saison touristique et qui lancent un appel. Venez en Gironde. Alors, est-ce que vous seriez prêt à aller en vacances en Gironde? Est-ce que vous avez conservé votre réservation pour le mois d'août? Ou est-ce que vous êtes prêt à y aller dans les années qui viennent pour soutenir les professionnels du tourisme? On vous attend au 32-16, on en parlera juste après le journal avec mon invité.
Autre victime de ces incendies, les animaux sauvages. Certains ont été pris dans les flammes et ont dû fuir la forêt. Notre envoyé spécial RMC, Inès Zegloul, a rencontré des bénévoles qui se mobilisent pour les sauver au parc animalier à Landiras, en Gironde.
Oui, c'est Patrick.
Dans l'allée poussiéreuse de son refuge, le téléphone toujours collé à l'oreille.
T'as des nouvelles pour le chevreuil que je t'ai dit là ?
Une bénévole lui dit que les pompiers ont localisé un animal sur le bord de la route. Patrick nous emmène voir ce qu'il a déjà recueilli.
Il faut qu'on passe par là. On l'a mis là-dedans pour qu'il soit tranquille. C'est un animal qui a marché sur des braises en fait. Hein. Et là, il est tranquille, tu vois. Les pattes sont bien cramées en fait. Hein.
Là, il souffre pas.
Je pense qu'il souffre quand il se lève. On va dire que celui-là, il est en sursis, malheureusement. Tu pars avec qui? Avec elle, c'est bon?
Oui.
C'est un peu le bouillonnement, on va dire. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Cette bénévole, elle nous vient quand même.
De Calais. Donc, j'ai fait la route toute la nuit pour les protéger, pour les soigner, pour leur vivre en aide. Là, le feu a enlevé leur maison et c'est tellement triste. Le téléphone, encore, et à la cohésion succède la stupeur.
Ils m'ont envoyé un message avec la photo, donc la chevrette, elle est décédée. Donc.
C'est la bête que vous deviez peut-être recevoir.
C'est le petit chevreuil qu'on a été avisé par les pompiers. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter à ça, parce qu'il y en aura encore plein d'autres, de moins.
Et l'impuissance.
Voilà, malheureusement.
Une minute de silence sera observée devant les casernes en Gironde ce matin à 9h30 pour rendre hommage aux pompiers décédés. L'incendie dans l'élan lui est maîtrisé. Les quartiers évacués vont pouvoir rouvrir. La circulation va également être rétablie, annonce la préfecture.
RMC 8h34 et cette avancée dans la deuxième phase du plan de paix à Gaza.
Un accord a été trouvé sur le désarmement du Hamas. L'annonce a été faite cette nuit par Donald Trump qui parle d'une étape monumentale. Un accord historique. Et Caroline Renaud, vous êtes en direct ce matin avec nous. Cet accord prévoit le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza en échange du désarmement du Hamas.
Oui, selon l'accord, seul le Comité national pour l'administration de Gaza pourra détenir, stocker ou contrôler des armes dans l'enclave palestinienne. Toutes celles du Hamas devront donc être remises à cette entité créée par le Conseil de paix de Donald Trump. De son côté, Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Ses forces devraient se retirer du territoire à mesure que le Hamas rendra ses fusils et ses lance-roquettes. Prochaine étape, discuter des modalités de mise en œuvre et convenir d'un calendrier. Étape qui prendra une quinzaine de jours, précise l'équipe de
négociations du Hamas. Puis, une force internationale de stabilisation se chargera d'encadrer la transition politique. Elle collaborera directement avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza.
Caroline Renault, le gouvernement gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova. Pour 6 mois, la journaliste est accusée d'être la voix du Kremlin, notamment sur CNews. Une annonce qui intervient quelques jours après un arrêté ministériel d'expulsion. L'Espagne, confrontée à l'arrivée massive de migrants. Des images impressionnantes où l'on voit plusieurs centaines de personnes entrer illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le nord du Maroc. 9 d'entre eux ont perdu la vie. Le président de cette ville autonome a demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence nationale.
Et puis cette grève surprise à la SNCF annoncée au tout dernier moment pour les vacanciers et travailleurs.
Les cheminots lancent aujourd'hui ce mouvement de protestation. Conséquence, le trafic est perturbé entre Paris et la Normandie. Objectif, dénoncer leurs conditions de travail lors des épisodes de canicule. Jérémy Tabary, secrétaire général du syndicat CGT Paris-Ouest, invité d'Apolline Matin.
Nous avons eu de nombreuses réunions avec la direction pour éviter d'en arriver à ce conflit. Le feu gronde, en tout cas, chez les conducteurs depuis le début de l'année. Et effectivement, là, avec les épisodes de canicule que nous avons eus, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau du mécontentement chez les cheminots. Et la direction emporte l'entière responsabilité. Ce n'est pas que pour pénaliser les vacanciers. Et à un moment ou à un autre, c'est arrivé. Nous avons déposé des demandes de concertation. Ça a pu très bien tomber le week-end, on va dire, dans 2 semaines. C'est un concours de circonstances.
Et du monde sur les routes aujourd'hui, ce sera rouge dans le sens des départs sur une grande partie du pays, noir sur le quart sud-ouest, demain noir sur toute la France.
Il est 8h37 et la FIFA campe sur ses positions.
Pas question de renoncer à son plan d'ouverture aux investisseurs privés malgré les critiques. Et Pierre Thévenet, l'UEFA lance donc un bras de fer.
Oui, si l'initiative du patron du football mondial va au bout, les pays membres de l'UEFA ne participeront pas aux compétitions organisées par la FIFA. Annonce faite dans un communiqué hier, ces pays dont la France rejette sans équivoque cette proposition de privatisation des grandes compétitions de football mondial. Un projet qui doit rapporter gros à la FIFA. Gianni Infantino, son président, cherche donc l'adhésion des fédérations. Il ne la trouvera pas du côté de l'Europe qui refuse ce modèle. La Coupe du Monde appartient au football, il en sera toujours ainsi, peut-on lire dans la déclaration. Et tant que l'Europe aura voix, elle ne sera jamais à vendre. L'UEFA ne sera pas seule dans ce combat. La CONCACAF, qui regroupe les fédérations de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a également rejeté en bloc la proposition.
Et la disparition de la légende du foot Franco Baresi, l'international italien, est décédé à l'âge de 66 ans, annonce ce matin à l'AC Milan. L'ancien défenseur finaliste du Mondial 94, pilier du Grand Milan dans les années 80, a remporté lors de sa carrière 3 Champions League et 6 titres de champion d'Italie.
Le quintet aujourd'hui, c'est à Cabourg à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori le 3, son outsider le 14.
C'était le journal de Clément Gouis sur RMC. Il est 8h38. À suivre, le choix de la rédaction ce matin aux côtés d'un maire en première ligne en Gironde. Nous retournons au Porge, cette commune où 20% des habitations sont en cendres et où nous avons accompagné pour une journée le maire Martial Zaninetti sur le pont jour et nuit depuis maintenant plus d'une semaine. Et puis l'appel lancé aux touristes, je vous le disais, l'appel des professionnels du secteur, venez en Gironde, ne nous abandonnez pas. Appel lancé par le maire de Bordeaux, par les syndicats du secteur touristique avec une campagne de pub. On sera avec Franck Chaumès, le président de l'UEMIH, qui lance cet appel à la solidarité des vacanciers. A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42 sur RMC. Et c'est l'heure du choix de la rédaction ce matin aux côtés d'un maire en première ligne en Gironde et au milieu d'une commune en cendres, le village du Porge, presque 20% des habitations parties en fumée et un maire sur le pont jour et nuit depuis une semaine maintenant. Nous l'avons accompagné et sa journée commence à la salle des fêtes, le point de rendez-vous des élus, des pompiers, de tous ceux qui veulent apporter leur aide. Reportage RMC, Marion Gauthier.
Ok, d'accord.
Commencez avec un café et le téléphone à l'oreille.
À tout à l'heure.
Vous êtes levé depuis quelle heure ?
Depuis 5 heures.
Ses lunettes sur le bout du nez, son gilet bleu clair floqué mer, Martial Zaninetti enchaîne les points météo et les cellules de crise.
Alors, notre information, cette nuit, des gens ont été interpellés qui viennent cambrioler les maisons. Et nous avons également interpellé cette nuit des pyromanes qui continuent à allumer des feux. Ça me dégoûte.
Un conseiller municipal passe, plus d'une semaine déjà que les flammes ont encerclé le village.
Toujours du plus, des choses qui sont arrivées en plus.
Il montre une carte scotchée à la fenêtre.
Vous voyez, les points rouges sont des munitions. Des obus qui étaient enterrés depuis la dernière guerre, qui ont explosé quand le feu est passé dessus.
Un des problèmes qu'on n'aurait jamais imaginé.
Puis le maire sort vers la salle des fêtes, transformée en centre d'accueil et de logistique.
Plusieurs fois par jour, on fait le tour pour redonner un petit peu de
de baume au cœur à l'ensemble des équipes.
Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour.
C'est l'adjointe à la culture. Maintenant, elle est adjointe à l'alimentation.
Au ravitaillement, à l'alimentation, voilà. Ça fait une semaine que je suis là, parce que je ne peux pas aller chez moi.
Vous dormez où, du coup ?
Chez moi, en partie.
Chez lui, chez moi. Chez des potes, des fois sur des matelas, voilà. Pour moi, c'était très important d'être là et de soutenir tous les administrés.
Un énième appel pour des purificateurs d'air.
Aujourd'hui, c'est la problématique des intoxications au monoxyde de carbone qui sont le plus prégnant, puisque on ne s'en rend pas compte. On peut avoir des problématiques respiratoires et pulmonaires d'ici 2-3 mois.
Puis il croise une adjointe qui s'affaire les yeux humides.
J'ai une séance de psy à 10h, après la réunion, à 10h30. Okay. J'y retourne parce que je craque. C'est trop dur.
Elle se mord les lèvres et s'en va.
Ça me peine et... Ça rajoute de la douleur, mais je dois pas m'écrouler.
Des gestes de soutien, des mains sur l'épaule, une poignée de main aux pompiers.
Sans vous, j'y arriverai pas.
Tous ensemble, c'est ça.
Jean-Raymond est venu des Deux-Sèvres.
J'ai vu avec la commune, là, ils vont m'héberger la semaine prochaine et je reviens en civil pour les aider toute la semaine prochaine. Donc c'est un pompier d'ici qui va m'héberger.
Sur vos congés ?
Sur mes congés, oui. Bah oui, il faut aider les gens qui ont besoin.
Et si certains redoutent le retour des habitants dans les allées noircies, les maisons éventrées.
J'espère qu'ils vont pouvoir revenir assez rapidement et qu'on puisse les accueillir. On sera à leur côté. Mais ça va être des épreuves humaines et psychologiques à surmonter.
Il faudra un accompagnement psychologique, mais la solidarité s'organise encore, souligne une élue. Des dons de nourriture, de meubles parviennent déjà aux Porges.
Reportage RMC en Gironde, signé Marion Gauthier, l'une de nos envoyées spéciales sur place. Et cette solidarité, on l'entend depuis plusieurs jours maintenant. Et on va continuer de l'entendre jusqu'à midi. Standard ouvert sur RMC encore ce matin. On est justement au 32-16 avec Fabrice. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le coin parce que vous nous appelez des Landes. Et je vois que vous êtes vous-même forestier. Vous vouliez réagir à cette pétition qui est lancée pour interdire la chasse le temps que la biodiversité reprenne ses droits, que les animaux puissent à nouveau se développer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, tout à fait. Déjà, je voudrais intervenir contre M. Bougrain-Dubourg qui est le premier à nous donner des leçons de morale. Mais quand il y avait au plus fort de l'incendie, M. Bougrain-Dubourg et ses copains de la LPO et d'autres associations étaient complètement absents. Les seules personnes qui étaient présentes sur le feu, c'était bien sûr les pompiers, énormément d'agriculteurs qui ont participé à freiner ce feu et beaucoup de chasseurs qui sont venus et qui ont servi des centaines de repas aux pompiers et aux volontaires.
On a vu aussi les associations de défense des animaux s'occuper des chevreuils blessés, etc.
Ça,
quand même.
Ça c'est bien, mais c'est après le feu. Je vous parle pendant le feu. On n'a pas vu un seul écologiste amener une bouteille d'eau aux pompiers ou aux agriculteurs qui, eux, luttaient contre le feu.
Vous trouvez que c'est une forme de leçon de morale quand on dit, quand Alain Bougrain-Dubourg dit il va falloir du temps pour que la nature se régénère et que pendant cette période, il paraît logique de ne pas aller chasser les animaux ?
Oui, mais ça, on n'a pas besoin de M. Bougrain-Dubourg pour nous dire ça. Nous, on est des chasseurs et des forestiers, on est sur le terrain tous les jours. On n'est pas comme M. Bougrain-Dubourg qui va sur le terrain.
Donc ça vous paraît, en réalité, ça vous paraît normal ? Il n'y aura pas de chasse ?
Mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'on ne peut pas chasser sur les terrains brûlés. Mmh. Déjà, les animaux ne sont plus là. Il n'y a plus rien à y faire.
Et vous dites, mais il n'y a pas besoin de pétition pour vous le rappeler, quoi. C'est ça que, vous vouliez dire ce matin.
Exactement. Et j'aimerais que les gens qui ont signé cette pétition viennent nous aider sur le terrain. Ça serait pas mal.
Merci pour votre témoignage, Fabrice. Le débat continue. Vous nous appelez tous au 32-16. Vous envoyez vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Standard ouvert jusqu'à midi avec Rémi Barry et Julie Brault qui vont prendre la suite à partir de 9h. Dans un instant, l'appel aux touristes. Venez en Gironde. L'appel du maire de Bordeaux et des professionnels qui demandent un geste de solidarité. Venez sauver les professionnels sur place. On est avec l'UMIH, le syndicat des hôteliers restaurateurs. Dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49 sur RMC et RMC Story. Tiens, écoutez ce message qui a été posté sur les réseaux sociaux par le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave. Alors, on n'a pas ce message, c'est dommage. Thomas Cazenave qui disait une chose très simple, venez à Bordeaux et venez en Gironde. C'est cet appel. Bah, écoutez-le, on l'a.
cet été, venez à Bordeaux, venez en Gironde. Si vous voulez soutenir les commerçants, les artisans, les hôteliers, les restaurateurs, venez.
Bonjour Franck Chaumès. Est-ce que vous êtes avec nous, Franck Chaumès, président de l'UMIH Gironde?
Oui, tout à fait. Oui.
Bienvenue à vous. Vous êtes donc le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Vous aussi, vous lancez cet appel aux touristes, même une campagne de pub que vous allez lancer avec ce slogan « Ne nous abandonnez pas » dans plusieurs langues, hein, y compris pour des touristes étrangers. C'est quoi le message? C'est venir en Gironde, ça devient un acte militant, un acte de solidarité?
Oui, ben vous savez, aujourd'hui, avec ce que l'on subit économiquement, il était une obligation pour nous d'aller vite, parce que malheureusement, avant de mettre en place des campagnes, que ça soit par Atout France ou les offices de tourisme, c'est souvent un peu long. Parce qu'il y a toujours des paramètres importants pour eux. Nous, on a fait notre campagne de communication. On envoie un communiqué de presse dans la journée et on va essayer d'avoir les réseaux au maximum à l'étranger, bien évidemment, et sur toute la France pour venir, comme l'a dit notre maire de Bordeaux, de venir en Gironde, car la Gironde, elle est assez diversifiée. Il y a des territoires magnifiques, et il n'y a pas que les territoires qui ont malheureusement brûlé. Mmh. Il y a le Médoc, il y a le Saint-Émilion, il y a le Sauternay, il y a Bordeaux, il y a sa métropole, il y a tout un tas de diversité. Donc aujourd'hui, il y a urgence. Aujourd'hui, nous sommes obligés de communiquer. C'est ce qu'on a fait depuis.
Et c'est un peu la riposte au propos de la préfète qui était très mal passée chez les professionnels du tourisme lorsqu'elle avait dit « ne venez pas dans la zone pendant l'incendie », mais c'était au plus fort de l'incendie.
Non, mais d'abord, moi, je vais pas taper sur la préfète, parce que je crois que, à son crédit, elle a aucune victime humaine. Donc retenons ça déjà. Soyons des bons citoyens. On remercie bien évidemment tous les pompiers, les bénévoles, les agriculteurs, mais remercions aussi les hommes d'État, les maires de chaque commune qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont à leur crédit aucune victime. C'est ça qu'il faut retenir.
Donc on met de côté cette polémique. Alors nous, on a demandé à nos auditeurs depuis ce matin s'ils étaient prêts à venir en vacances en Gironde dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent. On a des messages sur le WhatsApp RMC. Victor.
Et on a d'abord Joël, départ prévu pour Arcachon dans une dizaine de jours et hors de question d'annuler, c'est une question de solidarité, nous ne les abandonnons pas. On a aussi Muriel qui nous dit réservation pour 15 jours faite dans un camping de Lacanau. Ça devait débuter demain, mais j'ai reçu un mail hier qui annule ma réservation pour mes vacances. Moi je veux bien venir, mais j'aimerais bien savoir où.
Ouais. Franck Chaumès, quelle est la situation à date là? Est-ce qu'il y a des campings qui vont pouvoir rouvrir parmi ceux qui étaient fermés dans la zone de l'incendie?
Ben on l'espère. Bon, il y a sur les 10 campings qu'il y a sur la presqu'île, seulement 3 ont je pense littéralement brûlé, mais on attend encore.
Ça c'est au Cap Ferret. Ouais. Voilà, ça c'est toujours fermé. Cap Ferret pour
après,
le coup.
Après tout le reste sur le bassin d'Arcachon de l'autre côté, il y a des campings de toute la comment ça s'appelle. Le Médoc, il y a des campings. Vous allez à Montalivet, il y a des campings. Donc j'invite, si la personne veut être solidaire avec nous, eh bien, d'essayer de voir un camping qui peut l'héberger. Et bien évidemment que je la remercie, parce que c'est ce message qu'il faut laisser passer. On a besoin de vous.
On a besoin de vous. Venez. Et il y a un certain nombre de structures qui sont ouvertes. Vous êtes en contact au quotidien avec les professionnels du tourisme du coin. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'annulations, y compris en dehors de la zone de l'incendie?
Oui, bien sûr, ils ont à peu près 50% d'annulation. Économiquement, bien évidemment, les zones touchées, c'est 100% de perte, sachant que 80% du chiffre d'affaires est fait entre le 14 juillet et la fin août. Donc ça va être une saison bien évidemment catastrophique. Et puis malheureusement, ça déborde sur les zones sinistrées. Ça veut dire que toutes les communes aux alentours, même nous à Bordeaux, nous sommes touchés. Nous avons près de 80% de baisse de réservation de fréquentation dans les restaurants. Donc j'ai envie de dire, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, mais surtout, prenez
les entreprises vont tenir. Il y a le chômage partiel, il y a quelques aides qui ont été annoncées par le gouvernement, les reports de charges, tout ça va suffire à faire tenir votre secteur?
Non. On a pour l'instant, on a le chômage partiel, mais qui serait pris à 60%. Et tout le reste, pour l'instant, est dans les décisions ministérielles. Nous nous battons, que ça soit la Chambre de commerce, que ça soit la Chambre des métiers, le MEDEF, la CPME, maintenant les entrepreneurs, l'UMI, la CGAD, tous ces gens-là luttent pour avoir, dirons-nous, les aides pour qu'on garde la tête.
Il vous faudra davantage, il vous faut de la trésorerie, là, c'est ça?
Ah ben, bien sûr, hein. Vous savez, aujourd'hui, comment peut-on vivre avec 80% de son chiffre d'affaires de l'année en moins? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça va être effectivement un quoi qu'il en coûte. Mais on va pas demander un quoi qu'il en coûte comme il y a eu pendant la Covid. C'est un quoi qu'il en coûte sur un mois et demi. C'est-à-dire du 22.
Et une aide très, très, très ponctuelle pour vous permettre de tenir le choc. Et ça commence par le retour des touristes, d'où cet appel que vous lancez. Donc venez en Gironde. Il y a encore des endroits où c'est ouvert et où il y a aucun souci, très loin de cet incendie dont on espère qu'il va être finalement fixé. On n'en est plus très, très loin chaque jour qui passe. Merci beaucoup, Franck Chaumès, patron de l'UMI à Gironde, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Et c'est l'heure de passer le relais à Rémi Barré et à Julie Brault. Bonjour à tous les deux. Le standard reste ouvert jusqu'à midi.
Exactement. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. On vient de l'entendre, un peu d'optimisme. Allez, sur le front des incendies, le feu est maîtrisé dans les Landes. L'incendie ne progresse plus en Gironde, mais toujours des centaines, plusieurs milliers même de pompiers sur le terrain, des sinistrés qui ont tout perdu, des évacués qui attendent de pouvoir rentrer chez eux. Alors, nous continuons de bousculer nos programmes sur RMC, RMC Standard ouvert, spécial incendie de 9h à midi. Vous continuez à témoigner de ce que vous vivez, vous continuez à proposer votre aide, à nous dire ce dont vous avez besoin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi avec Julie Brault qui est à mes côtés, qui lira tous vos messages, vos propositions d'aide, notamment nos reporters sur le terrain, évidemment. RMC Standard ouvert, spécial incendie, c'est le 3216. On attend tous vos appels et puis le WhatsApp, le 06 12 424 424.
Vous restez bien sur RMC, très belle journée et bon week-end.